Alors, ce matin, on va parler des croyances, mais de certaines croyances, des croyances que l'on appelle des croyances limitantes. Si je vous disais les hommes, tous des infidèles, qu'en pensez-vous? Les hommes sont tous des infidèles. Est-ce que tu peux avoir un micro libre si quelqu'un veut parler? C'est possible? Et si je prenais celui-là, un jaune. Pour libérer celui-là. Ah, d'accord. Et c'est un de toi. Ça y est, c'est réglé. Alors, si je vous disais que les hommes sont tous des infidèles, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va faire ça en interactif. Alors, si quelqu'un veut dire quelque chose, allez-y, ça me met à l'aise. Tu voulais dire quelque chose? Tous les hommes sont infidèles. Qu'en pensez-vous? Est-ce que pour vous, c'est vrai? Ou c'est pas vrai? Ou encore autre chose? Tu penses que c'est Dieu seulement qui sait?
Qui est fidèle.
Qui est fidèle? C'est vrai. Quelqu'un dirait que c'est vrai. Ça dépend de ce que cette personne a vécu. D'autres personnes diraient, oui, il y en a qui existent, il y en a qui sont comme ça. Et puis il y en a qui diraient, Dieu seul qui sait. Mais je viens de trouver encore une nouvelle réponse qui m'a dit, c'est Dieu seul qui est fidèle. D'accord. Alors d'abord, je vous propose qu'on voit ensemble qu'est-ce que c'est qu'une croyance. Parce que je dis, nous serons là et nous allons parler d'autres choses, ce qu'on appelle des drivers. Mais pour faire la différence, il faut qu'on fasse la différence entre croyance et driver. Donc c'est pour cela que je veux d'abord voir avec vous ce que c'est qu'une croyance. Une croyance, donc je vous donne une définition simple. Une croyance est le fait de croire que quelque chose est vrai ou possible. Ça vous convient? D'accord. La croyance peut être positive, elle peut être aussi négative, elle peut aussi faire obstacle à nos projets de vie. Ce qu'on croit peut faire obstacle à nos projets de vie. Nous sommes tous porteurs de croyances. Et toutes nos croyances ont un impact sur nos décisions. Elles peuvent contrôler notre vie entière. Et certaines d'entre elles pourraient nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Donc l'intérêt de ce thème est de nous amener à les identifier et nous en débarrasser. Et ce thème ne concerne pas que les couples. Laurine,
Oui,
tu peux donner le témoignage de Marcel.
tout à fait. Donc, Marcel, je vais vous dire un petit peu ce qu'il disait par rapport aux croyances, voilà, qu'il pouvait vivre. Alors, mon père m'avait vendu l'idée qu'il faut trimer pour réussir. Il me disait qu'il ne fallait jamais accepter la médiocrité. Mais il fallait faire des efforts, sinon j'aurais du mal à réussir. Il me disait aussi que si je trouvais un bon métier, je pourrais gagner beaucoup d'argent et alors j'aurais le droit au bonheur. J'avais compris deux choses. Qu'il n'y a pas de bonheur sans argent, c'est-à-dire que l'argent fait le bonheur. Que j'aurais du mal à réussir dans la vie. J'ai trouvé du travail dans le secteur tertiaire, je me suis mariée, j'ai acheté une maison. Mais voilà, avec les années, sont venues des frustrations dans mon couple. Je vivais chaque conflit comme une catastrophe. J'essayais de ne pas me décourager et je me disais, fais encore des efforts. Mais plus je faisais des choses pour combler mon épouse, plus j'avais le sentiment qu'elle ne portait pas d'attention. Je ne sais pas si c'est de l'indifférence ou si c'est moi qui m'y prends mal avec elle. J'aimerais trouver comment faire avec une femme et pourquoi je ne réussis pas avec elle.
La parole de nos parents La parole de nos parents a une grande influence sur nous. Comme nous le savons, comme nous savons qu'ils nous aiment, nous voulons suivre leurs conseils. Nous pensons avoir une croyance différente de leur. Si nous pensons avoir une croyance différente de la leur, c'est comme si nous leur donnons le sentiment de les trahir. Et puis, si papa ou maman croit à telle manière de réussir, alors j'y crois aussi. Les parents, ils nous aiment, alors pourquoi ne pas croire ce qu'ils ont, à quoi ils pensent. Il faut savoir que nos croyances se construisent depuis notre enfance. Elles se manifestent au moment où une situation nous questionne. Par exemple, quand il faut faire face à une nouvelle expérience, c'est à ce moment que vient s'installer la croyance. Sans compter que nous sommes en même temps enclins à répéter des schémas parentaux. Alors, très probablement, le père de Marcel croyait très bien faire en lui prodiguant des bons conseils. J'imagine Marcel passant des heures supplémentaires au travail pour gagner davantage d'argent et afin de combler son épouse. Quand il entend cette petite voix qui lui dit « Fais des efforts quand tu as du mal à réussir », la petite voix de son père. Alors, mais attention, c'est la deuxième partie de la phrase qui nourrit en lui une croyance limitante. Je répète la phrase, fais des efforts car tu as du mal à réussir. Tout naturellement, c'est pour cela qu'il finit par déposer les armes et se résigner lorsqu'il est en face de certaines difficultés.
C'est ça. Et nos propres croyances, justement, nous influencent. Donc, elles nous lient. Elles nous ficellent facilement. Donc, ce sont des croyances que nous portons depuis notre enfance, comme on vient de le voir. Et donc, par exemple, hein, quelqu'un qui a une bonne estime une personne qui a une bonne estime d'elle-même affronte avec assurance les aléas de la vie, que ce soit la vie de couple, la famille, la vie professionnelle. Donc, sa croyance en elle est porteuse de sens. Car tout ce qu'elle va, elle va croire positivement, elle va voir la vie de façon positive et ça va lui permettre d'avancer. Tandis que celui qui a une mauvaise estime de lui-même a tendance à se sous-estimer. Il affronte les problèmes avec peu de conviction. Par exemple, c'est la personne qui se dit je ne suis pas douée pour réussir telle ou telle chose. C'est ça une croyance limitante. Voilà.
Oui, c'est ça. Alors, un auteur a dit. On finit par ressembler à ce que l'on croit que les autres pensent de nous. On finit par ressembler à ce que l'on croit que les autres pensent de nous. Aux projections que nous faisons sur les autres. Cela montre comment l'impact d'une croyance que l'on a sur soi peut être puissant. Et plusieurs auteurs en parlent. Cela veut dire aussi que vous agissez vous-même à produire chez les autres les effets de votre croyance.
Donc, une personne qui n'est pas capable de s'aimer aura du mal à attirer l'amour des autres et aussi à donner cet amour. Par exemple, la personne qui se dit « je ne trouverai pas de compagnon, je ne trouverai personne parce que je ne suis pas belle ou pas suffisamment intelligente ou parce que j'ai un handicap », donc c'est une personne qui a du mal à s'accepter elle-même telle que Dieu l'a créée et telle que Dieu veut qu'elle soit. Nous sommes ici, donc, justement, encore une fois, en présence d'une croyance limitante.
Oui, une croyance limitante, c'est un sentiment négatif que l'on a sur soi ou sur les autres et que l'on croit vrai. Elle constitue un obstacle à nos réalisations. Cette croyance nous empêche de nous projeter de nouveau dans des expériences prometteuses de bonheur. Quelqu'un peut avoir de nombreuses croyances limitantes parce qu'on lui a dit « aimer fait toujours souffrir » et il y croit. Alors, cette personne ne va pas s'investir en amour parce que Parce que cette personne croit qu'aimer fait souffrir. Dire à un enfant, le grand amour n'existe pas. Quand il deviendra adulte, il ne s'investira pas à ceux qui ne croient pas exister.
C'est ça. Quand on dit c'est Dieu seul qui donne le bonheur, c'est vrai. Mais ça laisse penser que quoi que je fasse, en fait, il n'y aura pas d'impact, forcément. Ou ce n'est pas de ma faute pour telle ou telle chose. Mais on oublie que pour le coup, on a quelque chose aussi à faire de façon personnelle.
L'enfant à qui l'on répétait, tu n'as pas le droit à l'erreur. Il se dira, je ne vaux rien si j'échoue. Parce qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Il ne faut pas qu'il échoue, il ne faut pas échouer. Et il ne se pardonnera pas non plus de ses fautes. Il voit des difficultés à se pardonner. Vous rencontrez parfois des gens qui ont des difficultés à se pardonner. Ben, si vous voulez les aider, il faut aller chercher des fois bien loin, depuis l'enfance. On leur avait dit, tu n'as pas le droit à l'erreur. Alors que tout le monde peut faire des erreurs. Oui, l'enfant à qui on répétait, tu n'es bon à rien et tu ne peux pas compter sur, je ne peux pas compter sur toi, c'est pas la peine. Alors il se dira, c'est pas la peine que j'essaye de m'améliorer, mon sort est déjà écrit. J'ai rencontré quelqu'un, une sœur d'ailleurs, une sœur, elle était en voie de divorce. Sa mère avait divorcé. Et elle m'avait raconté des choses, mais je tout ne me revient pas. Mais ce que j'avais retenu, c'est qu'elle me disait que dans sa famille, qu'il y avait des choses qui se répétaient, donc c'est pour cela qu'elle va encore divorcer. Elle avait l'impression qu'il y avait un sort qui pesait sur sa famille. Vous comprenez que cette personne n'aurait pas résisté à ne serait pas tentée, voilà, d'essayer de réparer. Parce qu'elle se dit que le sort est déjà là, c'est déjà dans nos dos. Alors, je vous donne un autre exemple. J'ai connu une fille qui suite à un accident, avait un sérieux handicap physique. J'ai travaillé pendant 16 ans à l'ADAPI, l'association départementale des personnes handicapées. Je me suis enrichi d'expérience-là. En tant que chrétien, je me dis, fiche qu'on a des choses à apprendre. Elle suppliait Dieu de lui permettre de retrouver l'usage de ses jambes. Elle regardait sa sœur se tenant debout, faisant la vaisselle, et elle l'enviait. Elle se disait, si j'étais comme elle, si je pouvais faire un peu de vaisselle pour les autres, je serais heureuse. Comme nous avions l'habitude de converser, elle m'a rapporté que le Seigneur lui a répondu, « Si j'avais le cœur que tu as, j'aurais déjà changé le monde. » Et ça l'a changé. Vous avez vu que le Seigneur lui a montré qu'elle peut avoir une croyance positive si elle le voulait. Donc vous allez comprendre progressivement que nous pouvons changer nos croyances.
Un enfant qui naît infirme ou sans bras ou sans jambes, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il pense? Comment il peut vivre cela en fait? Parce que c'est une chose à nos yeux qui semble dramatique. Voilà.
Il n'a pas de bras, c'est ça?
Il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Il naît sans bras, sans jambes.
Alors là, c'est plus difficile.
C'est plus difficile.
Mais je vous invite à voir quelques images. Mettre le son maximum.
Je suis né à Melbourne, en Australie, en 1982. Et mes parents n'imaginaient absolument pas que je rentrerais au monde sans bras ni jambes. Je suis la seule personne sans bras ni jambes que j'ai jamais vue. J'ai cru en Jésus-Christ après avoir été pendant 7 ans et demandé à Dieu pourquoi est-ce que je suis né comme ça. Il m'a répondu très clairement par un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Alors j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans après avoir lu ce passage où il croise la route d'un aveugle. Et attendez une seconde, c'est vraiment intéressant. Personne ne savait pourquoi il était né comme ça. Je me suis dit, parfait, c'est tout moi. Donc, j'ai lu dans l'évangile de Jean, au chapitre 9 et au verset 3, où Jésus dit que c'est arrivé afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Je me suis dit, waouh, Dieu, si tu avais un plan pour l'homme aveugle, tu en as aussi un pour moi. C'était un début de ma relation personnelle avec Jésus. Des groupes de jeunes, des églises ont commencé à me solliciter. Partout des portes se sont ouvertes pour que je puisse donner mon témoignage. J'ai parlé devant 300 lycéens. Au bout de 3 minutes, la moitié des filles s'était mise à pleurer. L'une d'elles, au milieu de la salle, les larmes aux yeux, m'a levé la main et dit « Je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais est-ce que je peux venir pour vous prendre dans mes bras ?» Devant tout le monde, elle s'est avancée et m'a pris dans ses bras. Elle a pleuré sur mon épaule et m'a murmuré à l'oreille. Jamais personne ne m'a dit qu'elle m'aimait. On ne m'a jamais dit que j'étais merveilleuse comme je suis. Je n'arrivais pas à le croire. Cela a changé ma vie. À cet instant, j'ai compris que Dieu se servait de moi pour lui faire un bien. Ce n'était pas par mes paroles ou par ma force, mais c'était Dieu. Et mon cœur s'est enflammé de passion. C'était vraiment impressionnant de voir une personne transformée pour toujours. Ce jour-là, j'ai su que Dieu m'appelait à annoncer son évangile à travers le monde. Je vous prie, ne partez pas d'ici sans changer. Repartez d'ici sans chaîne. Vous ne savez tout simplement pas ce que Dieu veut faire avec des morceaux brisés de votre vie tant que vous ne les lui apportez pas. J'aimerais que vous sachiez que quand vous tombez à terre, la grâce de Dieu est là. Dieu veut éteindre sa main et vous relever. Laissez-vous secourir. Durant les 7 dernières années de mon ministère, Dieu m'a ouvert les portes qui m'ont conduit à parler 2000 fois dans 44 pays sur 6 continents. Des campus universitaires comptant 40 000 étudiants en Chine, en passant par l'Inde, où j'ai parlé à la victime de l'esclavage sexuel, il y a une foule de 100 000 personnes réunies dans la jungle. Puis, l'Indonésie, l'Asie du Sud-Est, la Colombie du Sud et le Costa Rica, où j'ai pris la parole lors de conférences internationales, et puis voir les dirigeants consacrer leur pays au Seigneur Jésus. La Corée, où j'ai abordé le thème de la dépression et du suicide devant un public de jeunes, jusqu'en Europe de l'Est, et notamment en Serbie, en Slovénie et en Croatie. Et le message d'espérance a pu être aussi annoncé à travers tout le monde arabe. Ça, c'est Dieu. Et nous savons que nous n'en sommes qu'au début. Par la grâce de Dieu, nous avons pu de nos yeux 2 millions de personnes dire oui à Jésus et être mises en contact avec mon église locale. Aussi fort que cela puisse paraître, avec notre association Life Without Limits, nous avons pour but de prêcher à chaque personne de la planète, 7 milliards de personnes. Nous croyons qu'il est possible d'atteindre ce but, car le Saint-Esprit est en train de réunir des personnes souhaitant s'engager et nous soutenir dans notre envoi pour accomplir cette mission.
C'est émouvant. Vous voyez quelqu'un sans voix, sans jambes, et que Dieu utilise pour faire tant de choses.
C'est là où, effectivement, nous avons tous des histoires de vie différentes. Voilà. Et les croyances, comment dire, les croyances limitantes sont celles qui ne sont pas forcément en adéquation avec la parole de Dieu.
Absolument.
Voilà, mais les histoires de vie sont différentes. Et Dieu sait faire avec chaque histoire de vie.
Dieu sait faire. Nous sommes faits à l'image de Dieu. N'est-ce pas? On est d'accord? Donc il y a une partie de nous, dans notre génome, qui est une facette de Dieu. Enfin, je le dis comme ça, on peut le dire autrement. Mais c'est une réalité, puisque la Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Tout ce qu'il nous a donné est pour notre plaisir. Mais je dirais que Dieu est pour le plaisir, et Satan est pour la souffrance. Dieu est pour la vérité, Satan est pour le mensonge. Dieu est pour la joie, Satan est pour la paix. Il faut que... Je ne suis pas pasteur, mais j'ai envie de dire, il faut que ces choses soient claires pour nous, claires dans notre tête, que le plaisir, la joie, le bonheur, tout ça, Dieu le veut pour nous. Quel est donc l'impact de mes croyances sur ma vie de couple, sur mes études, sur mon choix, sur mon métier? Pour mieux sonder l'état de santé de mes croyances, voici, par exemple, une question à se poser. Lesquelles de mes croyances m'apportent plus de bonheur dans ma relation avec les autres? On va voir ce que ça veut dire. Alors, nous pouvons faire des expériences pour les identifier. Nous pourrons faire ça dans un atelier plus tard, si vous voulez. Aujourd'hui, nous prenons des croyances pour nous interroger sur celles que nous avons construites lors de moments de déception et qui rongent notre espoir d'être heureux, d'être heureuse. Une croyance limitante peut pousser quelqu'un au suicide, parce que la personne se dit « ce n'est pas la peine », etc. Et elle y croit. Elle croit que ce n'est pas la peine de se battre ou d'espérer. Cette personne oublie qu'elle est faite à l'image de Dieu. Alors comment pouvons-nous être conduits vers le bonheur de Dieu si nous n'y croyons pas? Il y a 2 semaines, frère Nicolas disait que Dieu est celui qui seul peut nous apporter le vrai bonheur. Mais si nous n'y croyons pas, ça ne touche pas la puissance de Dieu. Dieu restera puissant. C'est nous, c'est chez nous qu'il y a le problème. La Bible dit que l'enfant laisse déjà voir ce qu'il sera demain. Donc, rappelez-vous, nous disions tout à l'heure que nos croyances prennent naissance dès la petite enfance. Alors, pour ceux qui sont parents et qui ont encore des enfants à éduquer, vous avez compris qu'il faut être très attentif. Nous leur voulons du bien et nous leur donnons des conseils, mais attention avec leur petite tête qui peuvent récupérer une partie du conseil, et si c'est une partie qui peut les limiter, vous avez compris? On peut revenir sur les exemples que nous avons du témoignage de Marcel. Alors, Laurine, voyons les croyances aidantes.
Parfait. Pour aborder la question des croyances aidantes, commençons par un état des lieux. Si ce que je crois sur moi réduit mon ambition dans la vie, donc, est-ce que ce que je crois sur moi-même réduit mon ambition dans la vie? Par exemple, le Seigneur a prévu que je sois, que je puisse évangéliser, par exemple. Comme le frère, voilà, il pouvait se dire, ben non, mais je n'ai pas de bras, je n'ai pas de jambes, donc je ne peux rien faire. Mais Dieu avait une ambition beaucoup plus grande pour lui. Donc, est-ce que mon ambition, est-ce que ce que je dis comme croyance limitante réduit ce que Dieu a prévu pour moi? Si ce que je crois sur l'autre, mon frère, ma soeur, mon conjoint, m'empêche de l'aimer, le Seigneur a prévu que nous puissions nous aimer les uns les autres. Mais effectivement, parfois, dans ce qu'on voit chez l'autre, ou dans ce que l'autre nous fait voir de lui, ou de ce qu'on vit, on peut avoir du mal parfois à l'aimer. Et pourtant, Dieu a un idéal de vie pour nous. Et dans cet idéal, il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Donc, est-ce que la croyance que j'ai au sujet de mon frère et de ma soeur m'empêche de l'aimer comme Dieu voudrait que je puisse l'aimer? D'autre part, est-ce que j'ai en quelque part une croyance limitante qui m'empêche d'être pleinement libre? Pas libre de péché, naturellement, mais libre d'être ce que Dieu voudrait que je sois. On va d'ailleurs lire dans la Bible, je vous invite à prendre Éphésiens 4, versets 21 à 24, pour étayer un petit peu ça. Parce que nous savons que c'est la parole de Dieu, notre guide. Alors, on va prendre la partie du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Le verset 23 nous dit à nous laisser renouveler par l'esprit de Dieu dans notre intelligence. Donc, en quelque part, pour sortir des croyances limitantes et des croyances fausses qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut pour nous, eh bien, c'est la parole de Dieu. Nous laisser transformer, nous laisser renouveler dans notre intelligence par la parole de Dieu. On va prendre aussi Colossiens 3, verset 10. Colossiens 3, verset 10. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Je reprends le verset. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Parvenir à la vraie connaissance. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui nous a franchis. C'est cette connaissance qui transforme les croyances limitantes, les mauvaises croyances, en ce que Dieu voudrait pour nous. Le frère, certainement, ses bras ne vont pas pousser et ses pieds ne vont pas pousser. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que chaque histoire de vie est différente. Chaque histoire de vie est différente. Mais avec mon histoire de vie, avec mes difficultés, avec mes épreuves, mon histoire de vie, tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que je suis à l'heure actuelle, qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Et c'est sa parole qui renouvelle mes pensées et qui me permet d'aller vers ce que Dieu a prévu.
Donc il faut remplacer une croyance par une nouvelle croyance.
Par une nouvelle croyance. Et c'est la Bible qui nous donne la bonne croyance. La Bible est la vérité. La parole de Dieu est la vérité.
Alors si, donc ce que je retiens, si vous ne pouvez pas en démordre avec une croyance limitante qui vous intrigue, par exemple, quand vous voyez quelqu'un, vous vous dites « Ah, telle personne est arrogante, je ne l'aime pas. » La solution est de remplacer ce que vous croyez de cette personne. C'est ça?
Oui.
C'est ce que Dieu attend de nous.
Exactement.
Voilà. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc, les croyances limitantes sont des croyances obscures.
Oui, sont des croyances ténébreuses.
Ténébreuses. Alors, voyons comment la croyance positive se met en place. Une croyance positive, elle s'inscrit dans un processus. Le processus, en trois mots, c'est quitter, s'attacher et devenir. C'est un processus que l'on va revoir, que l'on retrouve dans la Bible. Une croyance positive est une croyance aidante. Elle nous aide. La plupart des personnes qui réussissent dans la vie, et quel que soit le domaine, pas que du couple, à l'école, ces personnes ont connu des échecs répétitifs. Mais elles en sont sorties en adoptant des croyances positives, des croyances aidantes. Il y a des gens qui passent leur vie et ne sortent pas de leur croyance. Elles veulent construire tout en gardant des croyances qui vont miner leur foi. Une croyance positive, oui, on l'a dit, c'est une croyance aidante. Nos échecs peuvent nous conduire à changer aussi nos croyances erronées. Parce qu'on s'est dit, cette fois-ci, c'est fini, je vais changer, je vais croire autre chose parce que ma croyance me conduit toujours à l'échec. Si je prends l'exemple des couples, Ceux qui réussissent sont des gens qui ne croient pas à la possibilité de changer leur problème. Souvent, dans le, chez le jeune couple, hein, on trouve un des partenaires qui dit « mais je vais finir par le changer, je vais finir par la changer ». On pense qu'on finira par changer l'autre et ça va marcher comme ça. Mais finalement, ceux qui réussissent, ce ne sont pas des gens qui sont arrivés à changer leur partenaire. Ils ne sont pas arrivés d'ailleurs, ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui arrive à nous changer. Mais ce sont des gens qui ont compris qu'il faut se changer eux-mêmes pour s'adapter à leur partenaire. Vous avez compris? Et d'ailleurs, lorsque vous priez, que vous dites « Seigneur, change mon épouse, Seigneur, change Marie, elle est un enfant. Seigneur, change Marie, parce qu'elle est comme ci, comme ça, et je ne supporte pas ça. » Oui, le Seigneur nous aime, il va nous donner la solution. Mais, alors, je vais vous donner un exemple. Je peux?
Oui, bien sûr.
Je fais comme si c'était Marie.
Et c'est pas pareil.
Alors, une fois, ça vous arrive aussi que vous levez le matin, c'était le dimanche matin, j'étais levé et je me suis mis à prier avant d'aller au culte. Et j'ai dit, Seigneur, alors, comme je m'étais levé le matin un peu plus tôt, donc j'ai eu le temps de prier, ça vous arrive parce que vous priez un petit peu plus longtemps, vous avez l'impression d'être emporté. Bon, alors, gardons les pieds sur terre. Et là, j'ai dit, Seigneur, montre-moi ce qu'il faut faire, etc. Et puis j'ai eu l'impression que le Seigneur allait me répondre. Je m'imaginais à ce qu'il me dise, eh bien, François-Élève, tu crois, va en Afrique, va en Australie, et fait telle et telle chose. On a tendance à penser que ce serait une chose de ce genre, quoi. Que le Seigneur va nous faire une révélation sur des capacités, va nous donner pour évangéliser. Je vous dis que le Seigneur m'a répondu. Je suis persuadé qu'il m'a répondu. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Lève, va faire la vaisselle. Oui, j'avais promis à Marie de faire la vaisselle. Je lui avais promis de faire la vaisselle, et puis je ne l'avais pas fait. Ça vous fait rire. Alors, je disais que les personnes qui réussissent sont ceux des gens qui ne croient pas à la possibilité de changer leur partenaire, mais plutôt à changer eux-mêmes pour s'adapter à eux. Ces personnes se pardonnent rapidement et s'acceptent telles qu'elles sont. Prenons le temps de s'écouter sans se juger.
Mm-hmm. Les couples heureux sont des gens qui apprennent à rire ensemble de leurs anciennes croyances.
Ah oui, donc vous êtes heureux tous les deux. Je vous vois souvent sourire, souvent rire. Mais c'est vrai, essayez de rire ensemble. C'est un petit conseil simple, mais utile. Essayez de rire, Marie et Moïse. Essayez de rire ensemble beaucoup. Ça va vous faire du bien là, dans le cœur aussi. Oui, vous savez, scientifiquement c'est prouvé. Oui, c'est ça. Lorsque nous cherchons à rire ensemble, et aussi, rions de nos anciennes croyances, de nos vieilles croyances, qui nous ont fait croire que l'autre ne m'aime pas, etc. Hein? Eh bien, lorsque nous cherchons à prendre le dessus, nous créons un mécanisme physiologique, enfin, un bouleversement physiologique dedans. Tu connais ça?
Oui, absolument.
Alors, c'est une modification qui se passe au niveau des hormones. Alors, notre cerveau crée de la dopamine. La dopamine, on retrouve ça dans les médicaments, dans les antistress. C'est-à-dire que Dieu nous a équipés d'une pharmacie à l'intérieur pour nous soigner nous-mêmes. Mais si vous vous mettez à pleurer vite ou à vous plaindre vite, vous créez de la toxine au-dedans de vous. Et c'est pas bon pour la santé. Bon, allez, je ferme la enveloppe. Je ne suis pas médecin. Alors, tu disais que les couples heureux sont ceux qui s'abrient
ensemble. Ils apprennent à rire ensemble. Et notamment de leurs anciennes bêtises.
D'accord. Alors, quand vous partez d'ici, riez. Oui, faites-le. Pensez à moi.
Et ça, c'est valable aussi dans tout type de relation. Hein. C'est pas forcément le couple.
Oui.
Des relations amicales, des relations de travail. Voilà. C'est vrai qu'on parle beaucoup de couple, mais
absolument.
Tout le monde n'est pas en couple.
Absolument.
Et c'est vrai que l'amitié, dans une amitié où on rigole, voilà, ça aussi, ça fait du bien.
Oui. Voilà. Dieu voit nos souffrances et connaît les causes réelles de nos frustrations. Il veut nous faire sortir de nos prisons, de notre prison intérieure. Il propose comme solution de quitter carrément notre vieille nature. Et pour ce faire, il nous propose une solution, c'est d'être régénéré, devenir une nouvelle nature. Nous connaissons le verset. Celui qui est en Christ est une nouvelle nature. Il nous propose ce processus de quitter, de s'attacher et de devenir. En fait, il nous propose de devenir membre d'une nouvelle famille où lui-même en est le Père. Jésus nous aide à avancer au quotidien et à nous reconstruire dans des émotions positives. Ne cachez pas vos émotions. Alors je parle davantage aux hommes là. Parce que dans notre culture, on a encore des parents qui disent aux garçons, un garçon ne pleure pas. Un garçon, il ne faut pas être une fillette. Voilà. C'est déjà négatif ça. Et sois fort. Et malheureusement, l'enfant va grandir avec l'idée qu'il faut taire ses émotions. Parce que laisser voir ses émotions, c'est en quelque sorte laisser voir une faiblesse en soi. Et si tu ne sais pas développer tes émotions, tu ne seras pas non plus beaucoup aimé. Parce que aimer est lié aux émotions. Vous avez compris ça, messieurs, les garçons? On peut rejeter. Il y a des choses que nos parents nous aimaient, voulaient que nous soyons forts. Mais c'est pas qu'ils ont fait des choses mal, mais c'est que. Ils ont répété des fois des choses que leurs parents leur avaient dit, c'est ça? Mais nous pouvons échapper à toutes les parties des bons messages qui nous font du mal, qui nous ont contaminés. Alors en conclusion, si votre façon de voir le monde, vous la croyez vraie, mais que c'est aussi vrai qu'elle limite votre façon d'aimer votre prochain, alors dites-vous, je suis contaminé par une croyance limitante. Vous avez vu que Nick Vujicic, celui qui avait pas les bras et les jambes, était un enfant né avec sans bras et sans jambes. Il avait toutes les raisons de croire que ce n'était pas la peine d'espérer une vie heureuse. Aujourd'hui, sa vie atteste que nos seules limites sont celles que nous nous imposons à nous-mêmes. Il est l'auteur du livre Une vie sans limite. Alors, permettez-nous quelques suggestions. Reconsidérez les croyances que vous transmettez à vos enfants. Peut-être qu'il faut les nuancer pour qu'elles ne deviennent pas demain des dogmes pour eux. Un dogme, c'est quelque chose que l'on croit fondamentalement vrai, mais qui n'est pas forcément vrai. Restez attentif à protéger leur bonheur.
Pensez aussi à vous donner de l'amour. C'est ainsi que vous pourrez le donner aux autres. Prenez soin de cultiver votre beauté intérieure. Cela va vous aider à avoir des croyances positives. Une croyance positive vous aidera à vous pardonner déjà et à pardonner aux autres par conséquent. Cela passe par le temps qu'on passe avec Dieu, naturellement, parce que ce n'est pas de nous-mêmes. Parfois, on pense qu'on peut faire des choses de par nous-mêmes. Mais nous ne pouvons rien faire de par nous-mêmes. Cela passe par le temps avec Dieu, le temps dans la parole de Dieu. C'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui lave nos mauvaises pensées et qui nous permet d'en avoir de nouvelles. Puisqu'il nous est dit que la vérité nous affranchira. Et on va prendre d'ailleurs Jean 13, verset 34, quand on parle de l'amour. Je vais commencer à partir du verset 33. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pourrez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. L'amour vient de Dieu. L'amour n'est pas de nous. L'amour vient de Dieu. Et c'est cet amour que Dieu nous donne qui fait que ça coule vers les autres. Donc, plus je m'approche du Seigneur, plus je reçois de cet amour, plus cet amour m'affranchit pour me permettre de m'aimer moi-même et d'aimer les autres.
Merci, merci. Pour vous les jeunes, si vous croyez qu'il vous est possible d'arriver dans une, à une grande école, comme l'INA, l'École nationale des arts et métiers, c'est ça? C'est ça, Agnès, l'INA?
Non, c'est pas ça, mais c'est pas ça, mais c'est pas grave.
Bon, allez, heureusement, vous suivez. Alors, si vous croyez arriver à une grande école ou faire une école polytechnique, hein, ce sont des grandes écoles, vous aurez plus de chances de réussir dans la vie sociale parce que vous avez une croyance positive. Vous avez compris? L'enfant qui a une croyance positive a plus de chances d'arriver. Mais s'il se dit, je ne vais pas arriver parce que mon papa m'a dit que tu ne vas pas réussir, il ne va pas arriver. Pour les couples, si vous croyez qu'il est possible de s'aimer vaille que vaille, vous avez beaucoup de chances de réussir votre mariage, votre couple. Parce que vous avez une croyance super positive. Aimer vaille que vaille. C'est bien la volonté de Dieu. Parce qu'il nous aime vaille que vaille. Presque tous les jours, nous péchons et il recommence à nous aimer. Il nous dit de nous aimer comme il nous a aimés. Aimer en couple, c'est parvenir à marcher ensemble, parfois sans se comprendre. Se comprendre sans se ressembler, c'est en tout cas vivre ensemble, la main dans la main. Pour les couples, vous voulez? Alors, on ne cherche plus à changer l'autre, d'accord? On ne cherche plus à changer l'autre, mais on accepte de s'aimer sans se comprendre, de vivre ensemble avec nos différences, même avec nos croyances.
Si vous êtes célibataire, célibataire, veuve, divorcée, vous pouvez vous exercer à cultiver des croyances positives, des croyances qui viennent de la Bible, à recevoir des autres aussi, comme on parlait tout à l'heure, des amis, des frères et sœurs, de la famille, voilà, cet amour, cette attention, et aussi à vous exercer à le donner aussi en retour.
Enfin, si vous cheminez seul, vous pouvez vous exercer à cultiver une croyance édifiante. Vous deviendrez plus aimant, plus apte à inciter un changement chez l'autre. Si vous regrettez d'avoir tenu en suspicion une personne en particulier, accordez-vous un vrai pardon. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je souligne la deuxième partie. Comme toi-même. Et comme elle l'a dit, Laurine, si tu ne sais pas t'aimer, si tu ne sais pas te donner de l'amour à toi, comment tu en trouveras pour donner aux autres? Tu feras de la grimace, tu feras semblant. Ce jour, peut-être qu'on pourra parler de ce qu'on appelle le capital amour. Hein, Dominique, si j'y pense, enfin ceux qui y pensent, on pourrait parler du capital amour. Qu'est-ce que c'est le capital amour? Le capital amour, en deux mots, c'est quelque chose que j'ai capitalisé en amour et qui va me servir. Que je vais m'a servi à sauver la relation malgré un conflit. Bon, allez, je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, il était question de réfléchir sur certaines de nos croyances qui nous empêchent d'atteindre un plus grand bonheur. Si vous vous sentez en proie d'une relation toxique et que vous croyez que l'autre ne va jamais changer, ou bien si vous vous sentez abandonné, sans force, faites-nous un signe, on va essayer de vous aider. Quand je dis bon, je vais m'associer avec l'équipe des anciens, des pasteurs.
Et l'église, ça
et l'église aussi.
C'est voilà. Vraiment.
Il y a beaucoup de parents dans l'église. Si vous pensez que votre divorce a été un échec, regardez-le désormais comme une expérience. Changez la croyance. Cela vous permettra de rebondir. David a compris. On a entendu ce matin, David a compris qu'il ne fallait pas sombrer dans une croyance négative. Et vous connaissez son histoire, il avait de quoi sombrer. Mais il est parvenu à dire quelque chose qui a plu à son maître. je suis une créature merveilleuse. On peut le dire ensemble. Allons-y, allons-y, allons-y. Je suis une créature merveilleuse. Encore. Je suis une créature merveilleuse. Merci. Il y a une seule personne qui n'a pas été contente.
C'est l'adversaire.
Voilà. Si vous avez des questions, je suis là. On est là. Mais si, vous avez une question. Dehors, non? Sur nos croyances, sur des choses qu'on croit, on a un petit doute, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Personne? Tout est clair? Donc vous allez partir d'ici avec que des croyances positives en poche, c'est ça? Monsieur, vous pouvez dire à votre épouse, je n'avais pas vu que tu avais tant de qualités. Vous pouvez dire ça, monsieur? Et mesdames aussi, à vos maris. Hein? Mesdames aussi, à vos maris. D'autant plus que les maris sont très sensibles à la valorisation. Alors, la première question, c'était quoi? Quoi? Ah, la vérité. Est-ce que c'est la vérité que tous les hommes sont... Ah non, moi, je ne veux pas répondre.
Mais c'est faux. Tous les hommes ne sont pas forcément infidèles.
Tu vois, elle dit que tous les hommes ne sont pas forcément infidèles.
Voilà.
Moi, parce que je peux vous dire, si vous partez avec cette croyance, je dirais que vous êtes... Tiens, que je cherche. Vous êtes fils déjà, par votre croyance. Parce que nous pouvons produire chez l'autre ce que nous croyons de lui. Je crois qu'on peut être, on contribue, on devient acteur de ce que l'on croit chez l'autre. Si tu crois par exemple que ton mari est quelqu'un de bon, d'ailleurs quand tu t'approches de lui, tu vois une autre, ton apparence qu'il lui dit. Le ton de ta voix le lui dit. Il y a autre chose qui sont du domaine technique, je vous dis ça simplement, parce qu'il y a des recherches là-dessus, depuis des années, nous émettons des vibrations. Et le cerveau a la capacité d'entendre ces vibrations, de les analyser. Il y a des études scientifiques là-dessus qui le montrent. Bon, mais ce n'est pas le discours que je m'attends. Mais c'est juste pour vous dire que c'est vrai, ce que vous pensez de l'autre a une influence sur l'autre et aussi un effet sur vous. Vous connaissez l'histoire de Jésus face à Nathanaël? Nathanaël, il avait dit quelque chose de négatif. Jésus a entendu. Il a entendu ce que Nathanaël avait dit. Il vient vers Nathanaël et lui dit, voici un vrai juif, quelque chose de beau. Moi, je me suis dit que Jésus avait fait des études psychologiques aussi. Hein. Excusez-moi. Ou utiliser une telle méthode. Il a dit à Nathanaël, voilà, tu vois là un bon juif. Et Nathanaël a été, il a été surpris, mais aussi, rien que par la pensée que Jésus a projetée sur lui, il a été tout de suite transformé. Il a parlé différemment. Vous allez, si vous décidez d'aimer votre conjoint, vous allez lui parler différemment et ça va l'aider à changer positivement. Donc vous voyez que nous sommes toujours responsables. Parfois, je vais dire quelque chose de dur. J'ai constaté que nous sommes souvent responsables des situations qui nous environnent. Je parle du foyer. J'ai vu des gens heureux, mais j'ai vu qu'ils faisaient des choses comme ça. J'ai vu des gens malheureux, j'ai vu qu'ils faisaient des choses comme ça. Excusez-moi, c'est pas retenu, mais ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes, Dieu nous a équipés de choses, de vertus, de dons pour créer du bonheur autour de nous. Est-ce que nous voulons le faire? Mais bien sûr, ça nous demande de nous dépouiller d'une certaine vanité, d'un certain orgueil. Et c'est indispensable d'ailleurs. Bon, j'arrive là. Alors, il n'y a pas de questions?
Non,
comment?
Elle a dit soyons bon, alors, positifs.
Je vais te rassurer. Annie, il y a des hommes qui ne sont pas infidèles. C'est ce qu'elle a dit.
Marie,
tu veux dire quelque chose, c'est ça?
Qu'est-ce qu'il y a, le micro sans fil?
En fait, je voulais juste donner un exemple par rapport aux croyances limitantes. Je me rappelle que lorsque Charles était petit, à l'école primaire, c'était un enfant qui bougeait beaucoup. Et souvent, on lui disait « Ah, tu n'arriveras rien, tu es indécis, tu ne fais que jouer. » Et quand il venait me dire ça, ça me faisait la peine parce que je dis non, tu as des capacités, je suis sûre que tu vas réussir. Et donc, du coup, il n'aimait pas aller à l'école parce que à chaque fois, on lui disait petit. Un jour, il est arrivé à l'école, il y avait beaucoup de bruit sur le palier et la maîtresse a cherché à savoir qui est-ce qui parlait, on a dit que c'est lui. Et la maîtresse lui a donné tellement de coups que l'enfant avait un souffle au cœur. Et donc, mais c'est après qu'il m'a dit ça, mais le jour où je l'ai rencontré, c'est la connaissance du grand. Je lui ai dit non, tu ne vas pas faire ça. Et donc, tu vas laisser la personne faire ses affaires. Et je lui ai dit, mais quand il a continué ses études, je l'ai beaucoup aidé. Et le Seigneur a permis qu'il réussisse du mois. Tu réussis, un jour, il disait qu'il était parti à l'étropole et il a dit, oui, j'ai fait ça, j'ai réussi. Et son papa lui a dit, je suis fier de faire mon fils. Tu as vu? Il ne faut pas prendre les paroles que les gens te disent ou mettre ça maternellement parce qu'en fait ça te bloque, ça te limite en fait. Alors j'ai dit en fait c'est vrai que je ne voulais pas dire n'importe quoi aux enfants parce qu'ils enregistrent et puis ils n'avancent pas, ils sont limités. Voilà.
Moïse dit très bien ce que tu as fait. C'est important. La parole que tu lui as donnée, je suis fier de toi mon fils, change, l'aide à changer l'image, tu vois. C'est très important. Oui, alors ça, heureusement que vous êtes intervenu, parce que je n'ai pas dit ça. Comment pour aider l'enfant à changer sa croyance, il faut lui donner une autre croyance. Mais j'ai vécu cela aussi, moi, dans mon enfance. Je suis un enfant du rejet. Et je vivais ça mal dans mon enfance. Et mon père, il a plus tard, il m'a dit France. Si tu n'existais pas, il fallait t'offrir. J'ai senti une guérison. Parce que la blessure du rejet vient du parent du même sexe. Et donc il fallait qu'il me le dise. Il s'est rendu compte de son erreur de ce qu'il avait fait quand j'étais petit. Il fallait me guérir par une parole positive. Alors nous, parents, nous avons des possibilités. Est-ce qu'on n'a pas blessé nos enfants, lorsqu'ils étaient petits, parce que dans leur petite tête, ils ne comprennent pas, ils ne le comprennent pas. Ils sont très sensibles à tout ce qui peut les rabaisser. Alors nous avons la possibilité de les revoir et de leur dire des choses comme ça.
Et pour abonder dans ton sens, comme on disait, et c'est la parole de Dieu, la vérité nous affranchira. Et c'est cette vérité aussi que nous pouvons nous dire en tant que frères et sœurs. Parce que c'est aussi ça la force de l'Église. Peut-être que dans la famille, il n'y a pas forcément toutes les paroles qu'on souhaiterait avoir. Peut-être qu'on a parfois des paroles négatives. Mais dans l'Église, ça devrait être autrement. On devrait s'encourager.
Absolument.
On devrait s'aider, se fortifier au travers de la vérité.
Et se donner des paroles.
Et encourageantes. Parce que parfois, on n'a pas toujours le moral. Quelle que soit la personne, quel que soit le poste qu'on a, etc., dans l'Église. Mais la force de l'Église, c'est aussi la force de l'encouragement par l'amour. On peut se témoigner par nos paroles et par la vérité.
Merci, Louis.
Excuse-moi.
Eh bien, merci, hein. Merci de nous avoir écoutés.
Sans micro. Thank you.